schnell. Sommaire numéro 18. Au sommaire de ce numéro, trois invités, Philippe Beck, Jean-Marie Glaise et Pascal Poyer. Le titre de ce sommaire, la nouvelle BS, Trop de roses dans la prose, comme le dit Jude Stéphane dans un entretien qu'il a eu dans le nouveau recueil avec Jean-Baptiste Gouraud. Jude Stéphane qui aurait dû participer à cette soirée et qui est malade. Et il était navré de ne pas pouvoir venir. Nous sommes navrés aussi pour lui et pour nous. Alors, sans en revenir aux années 60-70, on peut dire que depuis trois ans, on remarque non pas l'avancée d'un front théorique solide et théorisant, mais plutôt des salves théoriques, de théorie, des manifestes ici et là. Pour rappel, rapidement, ça se passe dans les livres, bien sûr, « Ceux qui merdent »,« À quoi bon des poètes ?»,« Une erreur de la nature », Christian Prigent, chez POL, « À noir, poésie et littéralité »,« Le principe de nudité intégrale », Jean-Marie Glaise, au Seuil, « Poésie, etc., ménage », Jacques Roubaud, Stock, et puis d'une certaine manière aussi, « La tribu perdue » de Yves Dimano, chez Java. Donc dans des livres, mais aussi dans des revues incontournables, comme ça se dit si joliment, c'est-à-dire Nioc, Action Poétique, Prétexte, Le Nouveau Recueil, la Revue de Littérature Générale, etc. Les questions posées dans ces salves, dans ces avancées de questions théoriques, la forme poésie, les faux vers, la mécanique lyrique, trop de chants, de roses dans la prose, empiré dans le vieux beau, la prose non fumée de la poésie non fumée de la prose, il faut qu'à chaque tour de roue, la nudité gagne. Donc Philippe Beck, Jean-Marie Glaise, Pascal Poyer, et chacun à sa manière, qui participe à ce sommet à la nouvelle BS, vont répondre à ces questions-réponses. Philippe Beck, collabore à Critique, traducteur de Coleridge, Schelling, Benjamin, dans les revues Poésie et Ligne, traducteur et présentateur du philosophe allemand Carl Philipp Moritz, au PUF, préfacé chez Gallimard, la poétique d'Aristote, fait paraître des poèmes dans Poésie, Nioc, Recueil, Action poétique, Axolotl. Un livre qui sort ces jours-ci, il aurait dû d'ailleurs l'avoir avec lui ce soir, il y a eu un petit retard de brochage, je crois. Ce livre s'appelle « Livre de poésie, garde, manche, hypocrite ». Voici ce que dit Philippe Beck, d'un extrait paru dans... Je lis là un extrait paru dans le dernier numéro d'Action poétique, numéro 144. Philippe Beck, en parlant des extraits de ce livre. Certains textes de « garde, manche, hypocrite » peuvent être lus comme des proses, des non-vers dans la poésie, pourvu que la prose ici ne soit pas tenue pour fumer de la poésie. Il y a des poèmes, ce sont des poèmes résistants, visibles, non moins autonomes ou solides que de la prose émotionnelle en paragraphe. En principe, ce n'est pas du fumier pour de la prose. Jean-Marie Glaise, il est fondateur, ça pour rappel, de la revue Acide, qu'il avait fondé avec, et dirigé avec Michel Crozatier, et la revue Nioc, qu'il dirige actuellement. Il a publié dans de nombreuses revues, Poésie, Une Plano, Zuc, Tartine, Axolotl, et même dans l'excellente revue Banana Split, qui n'est pas citée dans le... Enfin. Et parmi les nombreuses publications de Jean-Marie Glaise, et je vous fais référence au numéro 52 de l'excellent cahier du Refuge, Poèmes et figurations, Le Seuil, 1943, réédité en 95. Francis Ponge, Le Seuil, Les Contemporains en 88. A Noir, Poésie et littéralité, Le Seuil, Fiction et compagnie en 92. Le Théâtre du Poème, Vers Anne-Marie Albiac, Belin, l'extrême contemporain en 95. Et en fiction, comme on dit, L'aimant, Le Seuil, Fiction et compagnie en 90, Tout doit disparaître, Collodin en 93, Ils sortent, La main courante, 94, Le principe d'une unité intégrale, dont on a déjà parlé, Le Seuil, Fiction et compagnie en 95, et La nudité gagne, Aldante, 1995. Je rappelle que dans le numéro 1 de Gnoc, Jean-Marie Glaise écrivait à propos du mot poésie « La diversité des acceptions de ce mot et le vague des déclamations de rhétorique où elles se mêlent ont jeté beaucoup d'incertitudes sur la nature de la poésie, son origine, son objet, ses conditions, sa place parmi les autres arts. » Et plus récemment, dans les manifestes pris dans le principe de l'unité intégrale, ceci, j'appelle l'unité intégrale, c'est un extrait que j'ai ponctué, j'appelle l'unité intégrale le point où tout coïncide, où tout commence. Comment faire ? Écrire en état de légitime défense, il faut qu'à chaque tour de roue, la nudité gagne. Enfin, Pascal Poyer, le CIPM, dans son admirable travail de défricheur des jeunes auteurs, chaque année, avant l'été, organise une lecture dite « Les inédits ». C'est en juin 1995 que nous avons, avec Jean-Charles De Paul qui est dans cette salle, pour la première fois entendu lire Pascal Poyer. Et nous avons été frappés par ce jeune écrivain qui commence son travail d'écrivain, par ce qu'il lisait, par d'où venait ce qu'il lisait, et il vous dira certainement comment il fabrique ces textes-là qu'il va lire. Nous avons été séduits par sa tenue, sa retenue, sa tension et son exactitude. Je dis ça très sérieusement parce que c'est exactement ce que nous pensions et que nous continuons à penser. À l'automne 1995, il a fait paraître un catalogue oral, il a fait d'autres lectures, il a publié dans les revues Dox, L'Endive et publiera bientôt dans l'excellente revue IF. Vous verrez comme cette voix est frappante et neuve, soyons sérieux. Il était normal que Pascal Poyer participe à cette nouvelle BS ce soir. Nos invités liront, dans l'ordre de la présentation que je viens de faire, donc Philippe Beck, Jean-Marie Glaise, Pascal Poyer, et en les écoutant, nous n'oublierons pas ce que nous avons rappelé dans le cahier du refuge et que dit Gertrude Stein, chaque auteur contemporain doit trouver son sens intérieur de la contemporanéité. Merci et bonne soirée.
Mesdames, Messieurs, je vais commencer par faire quelques considérations dites théoriques, puisque ça m'a été demandé. Le titre qui couronne la soirée, « Trop de roses dans la prose », m'a suggéré 12 thèses plus une que je vous livre immédiatement. Première thèse, la prose n'est pas encore la poésie. Je ne dis pas la prose n'est plus la poésie. Deuxième thèse, la prose en prose peut être de la poésie. Nous ne savons pas encore ce que prose veut dire. Il n'y a pas un concept de prose. La prose est inadmissible. D'ailleurs, elle n'existe pas. En vérité, il n'y a pas de prose. Mallarmé égale la prose est née d'hier, Flaubert. La prose en prose est l'autre nom possible de la poésie en poésie. Le « en » des expressions prose en prose, poésie en poésie, poème en prose en poème, n'implique aucune traduction en prose, par exemple, n'implique aucune traduction dérivée, en tout cas. Une prose ne doit pas être la paraphrase prosaïque d'un poème originaire ou préalable, puisque la prose n'est pas forcément dérivée, donc seconde. Pour dire les choses de manière ramassée, l'autotraduction de la prose en prose est une traduction moderne de la traduction de la poésie par la poésie. Troisième thèse, la poésie est inadmissible, d'ailleurs elle existe. Le vers ou sa consistance, comme dit Flaubert, ne disparaît pas. Il y a son impuissance à disparaître. Peut-être également ne savons-nous pas ce qu'est une rose. Prose au devant d'une femme de Denis Roche pourrait s'intituler Prose au devant d'une rose. Mais qu'est-ce que la boue, qu'est-ce que le fumier d'autre part? De quel fumier s'agit-il? On peut répondre, il s'agit du fumier du Job moderne qu'est Bartleby. Bartleby est le Job moderne de la littérature. La haine de la poésie est le propre de la poésie. Quatrième thèse, la double équation poésie égale rose et prose égale fumier ne tient pas. Le fumier n'est pas sans pourquoi, mais la rose non plus n'est pas sans pourquoi. Le bas, le vil, non plus que le noble et le grand, n'est un moment autonome. En même temps, il n'y a plus de vilain sujet en art. Et l'humiliation de la poésie, du poétique, entre guillemets, en littérature, doit trouver sa mesure et ne doit pas se désarticuler en lieu d'excès. L'excès se mesure. La prose, dans sa bassesse possible, n'est donc le moyen ni l'origine élémentaire ou mythique de la poésie. Ce qui signifie inversement ou réciproquement, la poésie n'est le moyen ni la fin de la prose. La nature a eu lieu, on y ajoutera encore. Et cet ajout a nom poésie. Mais c'est aussi l'ajout de la prose à la prose, l'autotraduction de la prose, laquelle n'est pas, ou n'est pas seulement, passage du langage dit courant au langage dit sophistiqué. Cinquième thèse. La poésie n'est pas l'art suprême. Il n'y a pas d'art suprême et synthétique. Sixième thèse, la poésie est un art unique en son genre du fait de son matériau. Et ce matériau, c'est le mot. Et à l'intérieur du mot, c'est le signifié. Enfin, c'est ce que je pense. Je dis bien le signifié et non pas le signifiant. Le signifié n'est qu'en apparence le matériau de la prose au sens faible. Mais la prose instrumentale ou la prose au sens véhiculaire n'est pas encore la prose. Aucun art n'est à la fois ouvert et fermé comme la poésie. Elle n'a pas de véritable marché, elle n'est pas supérieurement spectaculaire. Elle a pour matériau la langue de tous et la langue technique. Elle peut être, par nécessité moderne, difficile ou très difficile. La poésie, d'autre part, ne s'enseigne pas ou ne s'enseigne plus. Or, un art difficile peut s'enseigner. C'est la critique de Hölderlin, reprise par Mandelstam, à l'encontre du défaut de la poésie moderne. Mais alors, si la chanson, particulièrement la chanson de variété, est un art mineur, en ce qu'elle n'impose aucune véritable initiation au chanteur, elle se laisse pourtant enseigner. L'Anatole, par exemple, s'enseigne ou s'apprend. On devrait donc conclure à la minorité aggravée de l'art majeur qui est censé être encore la poésie, car la chanson n'est pas la poésie. Septième thèse, la poésie est haine de la prose dans la mesure même où la prose, en un sens, n'est pas haine de la poésie. L'attirance de la prose pour la poésie, même sous l'aspect de la rose ou de la fleur en général, est un fait historique. La prose est attirée par la poésie. Mais ce fait est dû à l'inexistence, à l'utopie de la prose. Huitième thèse. Le poème en prose est un apax baudelairien. Or, le poème en prose désigne aussi bien l'utopie même de la poésie. Il s'agit de la prose poétique baudelairienne, contemporaine du style de Flaubert, le « sans rythme et sans rime » de la lettre à Housset signifie la double astreinte d'une musique sans musique, ou l'utopie d'une musique sans musique. Baudelaire dit que la prose poétique de ses rêves est musicale sans rythme, prose qu'il dit particulière en ce qu'utopiquement elle reste musicale. Neuvième thèse, la poésie, à la différence de la chanson, ne peut plus supposer la musique, comme le fond sur lequel elle s'enlève. En poésie, le dire ne précède pas le dit. L'affaire de la poésie est le drame du signifié. je dis bien le drame du signifié, le drame de ce qui se dit malgré tout dans la forme la plus difficile, la plus opaque, puisque le mot est son matériau, comme le dit Mallarmé à Degas. Dixième thèse, les formes mineures détiennent quelquefois la vérité du temps plus profondément que des formes réellement supérieures. Onzième thèse, le vers est courbé comme le paragraphe, les phrases alignées composées en bloc, en stances, ou comme le tierce. Douzième thèse, il y a des versions épuisées de formes inépuisables a priori, je pense au sonnet, de sorte que la prédominance des versions réifiées ou épuisées implique une relation historique nouvelle aux formes jusqu'alors inépuisées. Ces dernières formes peuvent donc s'épuiser pour longtemps, car elles n'existent pas sans les versions dominantes qui en sont données. Treizième thèse, il n'y a pas de progrès en littérature notamment. Il y a des avancées régressives ou des reprises. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je vais lire quelques extraits du Garde-manche hypocrite, qui donc sort chez Fourbi ces jours-ci, et quelques extraits également du livre qui lui fait suite, qui s'intitule « Vers de l'époque surédit ». Alors la plupart de ces textes sont parus soit dans Nioc, soit dans Poésie, soit dans Action Poétique, soit dans une petite revue qui s'appelle Axolotl. Voici le début de Garde-manche hypocrite. L'ami qui a dit « continuez », en lui sonne le vers. Il comprend que l'amour se laisse trop vite, se laisse emporter dans tout et son apposé. Trop de détours, si j'entends ce qui est dit avec X, fait trop de tours magiques, fait bien trop de tours sorciers. Alors qu'en fait, ce sont des retours vifs, puis des tours droits, des tours faits à nouveau, en haut les mains, enfin aptes au passe-passe éventuel, et ensuite seulement au garde-chaîne. De là que, pour qu'on aime X ou Z d'amour, de non-consolabilité, en garde-manche, il faut un peu se retourner vers la statue qui le sait étrange. L'amour, ce n'est pas tout, ni rien du tout, ni quoi que ce soit, au cas mesuré où il y a des bras déterminants. Ensuite, je vous lis un texte que j'ai intitulé dans le numéro 70 de la revue Poésie, « Il ne faut pas pomper ». Alors, je vous donne la nouvelle version, celle qui se retrouve dans le livre. C'est le 21e texte de la première partie du Garde-manche hypocrite. « Mesdames, messieurs, il ne faut pas pomper du tout. Qu'ils pompent et ils paieront », parle clairement le quasi-sermonneur allé sur son autoroute. « Il faut pomper pour payer ». Pour donner, il ne faut pas pomper, mais aspirer à X. X se souffle, lui-même, en béton, d'une belle solidité, d'une de ses obstinations, qu'on soit restaurateur ou non. Et elle-même, souffler, payer l'épuisement de plus, un autre effort, et lui donner un salaire pour qu'il fonctionne comme un fonctionnaire, se fatigue net, obligé à cette spiration, assez longtemps, suffisamment, nécessairement, longtemps, et comme un chant. Friser le lyrisme des machines, en écrivant par exemple. Il faut, je pense abondamment, sans trop écrire, sinon par l'actionnement des lettres, toujours entouré, à des gens, lui donner l'occasion de cesser. Puisqu'il faut lui donner l'occasion de cesser de faire pomper, de suivre la pompe, il faut justifier les machines, qu'elles ne servent pas qu'à pomper, d'un mot. Les machines dorment et réveillent, outre qu'elles sont des choses à plagiat et à jouissance, plaisir, c'est-à-dire qu'elles sont des faiseuses de variations. Avec elles, tout semble littéral. Elles marchent ou ne marchent pas. On vient les bricoler ou pas. Elles marchent, remarchent. Elles se cassent. Elles-mêmes sont pour le pompage, sans prosternation. Peuvent-elles s'en passer? Les hommes et les femmes sont égaux devant les machines, orgues de barbarie. Alors donc, ils doivent aimer les dites machines pour arrêter net le pompage. Sinon, yago machine avec et même sans réparation. Ils sont techniques, ils ne sont pas égaux entre eux, contrairement à ce que dit l'utopie, formidable et nécessaire, se font la guerre, paix, d'ignobles, d'anciennes belles en tête, égaux, jamais aristomanes. Ils sont éthiques moraux. Un homme qui sait en même temps ne pas tout accepter de la technique, la calomnier, terrible, s'avance vers la machine, c'est l'inverse de où dit le robot. avec des bras et son pectoral, une machine avec des jambes et toute la tête accompagnée des oreilles. Sa trajectoire pornographique est, car il n'est pas obsédé sexuel ni automate, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'énormes besoins d'ordre érotique, bien qu'il soit passionné par la question érotique, directe. Un tirse dans la tête et sur tous les mouvements. Le mot direction, comme avant le mot etc., sonne et dicte ce pas de ni 4 ni 1 million. Quick, quick, slow. En machine, il tournoie et ne creuse pas le peu profond, c'est-à-dire l'intéressant point où il veut, pour prédiquer, en venir sans en finir avec les beaux jours. Ce n'est pas un pilote automobile, mais il aime les moteurs, la mécanique. Sa femme lui reproche de trop voir les choses en mécanicien ou niste ou niciste. Mais elle aime peut-être encore les élations, ce qu'elle voit comme les contre-tues l'amour, les anti-remèdes contre le chanté. Une femme suggestive, en tant qu'elle se voit, s'image en machine, non pas en robot enivré, en prévenant peu organique, en physiologue bête, à même la drôlerie savante, le savoir drôle. La question est pendant, peut-être pas à mes yeux, si je suis l'un de ces hommes du XXe siècle qui n'ont pas confiance en eux et qui ne peuvent que faire des portraits d'eux-mêmes et non des portraits d'hommes et de femmes d'une autre sorte. Avant, dit-on, c'était les femmes du XIXe siècle qui ne pouvaient décrire les femmes d'une autre sorte, décrire d'autres femmes possibles. Les hommes, sans guillemets, sont dans l'épreuve du bavardage. Les femmes, avec guillemets, sont dans celle du silence. Voici le 34e texte de la première partie de Vers de l'époque surédit. Voici de quoi définir, comme demandé. Pour les enfants, la poésie est de la prose, et ils sont complètement poésie. Si bien qu'on peut se demander si beaucoup d'entre nous ne font pas de la poésie sans le savoir. De la puissance tournée en impensée, légèrement, complètement et sérieusement poétique. Mais, monsieur, laissons cela, exige. Sérieux pompé par provision. Il est pompé par provision, un sérieux du vers, ou pompé par provision du vers qui marche. En étant sérieux, il pompera gravement par provision. Les deux vers graves luttent, et l'un fendu et l'autre marqué. Un licencié de vers est complètement érudit. Le vers sérieux voit son sérieux brisé. Le vers qui marche est marqué, il n'est pas arrivé à bon port. Le vers fendu est plié par provision, lancé vers un mur. Érudit amoureux, ex-embrassant, comme demandé, homme sérieux sans l'ignorer. Maintenant, je retourne au 20e texte de la première partie du premier livre. Le vers brisé, la brise d'automne autorisée, la bruine du vers, le cassé de la bruine creusée, l'objection du mur, du banquet, le banquet soufflé, insensible, mu, dans la liste seule, plus l'agencé des ellipses et l'agencement du blanc cassé en description, la liste des objets proposés, le vers de bruine suspendu, l'objection du vers, le vers arythmé, en prolongement pendu, proposé aux inracis absorbants. C'est le commencement des objets-choses. Maintenant, le poème 3 de la seconde partie de Garde-manche hypocrite. Chouche, la main timide tendra une chaise. Le colimaçon, j'ouvre avec surprise, l'haltérophile est soulagé, à propos de l'effrayant moulin de la mort. Le moulin n'est pas abandonné. Structure, ouverte à la revue, elle, à ce que viennent des mousses, juste sans flotte, navigare nequesse. Ce navire peint est une table renversée dont les pieds sont soumis, comme le navigateur est, à une sorte de haut les mains. Seulement le narrateur, premièrement, veut tout d'un coup brusquement. Deuxièmement, veut tout d'un coup tirer trop, produire plus qu'il n'est possible. Subitement, il veut produire trop. Troisièmement, veut tout d'un coup tirer trop de soi-même. Subitement, il veut trop tout. Le brigand appelle tout cela, dans la rose, une manière de vouloir tout d'un coup tirer trop de soi-même. Voici le texte numéro 22 de la première partie de Garde-manche hypocrite, c'est-à-dire le dernier texte de la première partie. Hérisson dernière, bataille entre rythme du cerveau et du cœur, ou bataille contre rythme entre cœur et tenue cerveau, du type R qui n'est pas profond, même s'il ne cherche pas la profondeur. Où est la personne qui m'impose l'inéchappable ? Globe de velours d'épingle à tête de perle. Service d'Oppenheim. L'étrange. Idée que l'électricité est le lait de la vache à laquelle on a enlevé le veau. Le mouvement inquiet ascendant de la première ligne question. Soulève les disques. Perce le rond. La montagne au pied de laquelle est retracée la combine pour avancer serait, d'après la spécialement inégalée hache, une bête qui ne connaît pas le temps, qui est le cheval qui gravit une côte lourdement attelée. Dans le fleuve d'air appelé temps, elles ne sont rien, les lettres avec des presque, des si, des préfères, des envies. L'aimant en fer à cheval rouge, des grappes de frappe, derbies et bottes. Voici le poème numéro 9 de la première partie. La glace broyée dans le verre de la foule de son nom strict foule K, en distinguant la drogue poutre et le procès, la foule à l'objectif dans la glace en bretzel avec une compulsion de politesse par quelques degrés d'ombre et d'afferment. D'envoise à des assez bien aimés, aux dédicaces identiques, recouvertes par les pénombres, les poupées de son, les effacements de torero, habits neufs glosés, les envois musclés aux dédicaces pareilles, les mêmes cartes, liées les grandes épreuves microscopiques ou closes pour les sentiments, l'appui du sentimentique et poétal. Pour les ballons, ces belles montgolfières sans poids, les fruits ballons dans la ouate, ces décalcomanies et les reproductions moroses. Un soir, tu as zippé les chaînes et la main s'est posée à genoux, connue par cœur. 1-5. Ce racontement a remixé sans sémaphore un beau jour, ou cette procédure de syntaxe d'action impartiale, déplacée de la chantrerie ou vers la conciergerie, du lieu des rhumbes qui mesure le souffle sur les ripple marks des promenades sur des radios laborieuses, qui place les inspections des natures, gestes et des masques, devenu racontement hors de soi au fourmillement martial des noms verts. Les jeux pour enfants dont les secondes se réduisent au point de non-décadence, au point de retenue, le clown est rejeté. Le récit n'est plus description extra-moderne, mais pré-description, chaud, impartial, d'un voici précis marqué. Voici le système physique plus un monde, complété comme un jouet délicieux, pour compléter le silence dans le plus grand silence houleux. Complété comme un témoin des intervalles où évoluent ces formes d'exposés, où la morphologie des houlques est un mur vert, où crépite, complété comme les gravures et les coussins de soufre, le cœur, l'accéléré d'une disposition à pleurer sur la barrière. Voici le début de vers de l'époque sur Eddy. L'époque sur Eddy est dramatico-végétale. Eddy est un Pinocchio revisité, pour qui on a fait une bambinette. Il était une fois un morceau de compositeur. Eddy, avec son côté poète et son côté financier qui s'exclut, a dit à Papa Diamandis « Je n'arrive pas à dévier les soucis en vers. Un morceau de Kleist dans un bois de percolateurs sophistiqués. Le public familial mérite chanson d'entraînement. Une chanson plus que désenchantée. Or, il faut ajouter, la famille publique a besoin d'un tube entraîné. Extra et de repassage, une petite famille nombreuse. Affranchi, le public, se retrouvant en famille, sent le nombre des questions de masque augmenter, le nombre des titres, masque et vers hypocrite, 48 polémoï. Le nombre des garde-manches danser vraiment dans la partie de jardin. La famille mérite les vraies parties de jardin. L'entraînement public au château en l'air, maquette pour des familles en bloc de magasiniers, le brouillard est paresseux. Les mottes si mouillées à mettre derrière le poêle. Du faîte des sapins montent une berceuse et des carillons usagés. Elles ne sont pas toutes belles les journées. Je vois que je dois clore, aussi loin répéter sur la fortune. Enfin, voici 1.36 et 1.40 que je vais lire en continuité, donc toujours de masque, ou plutôt vers de l'époque sur Eddy, parce que ce livre a encore un autre titre possible. Un beau, un exact protocole de petit homme, de greffier du tonique prosateur Caspar. Un beau procès de noms dispersés. Au cresson, une pellicule de la prairie, une pellicule de Caucase. Je deviens si infiniment vieux au cœur avec le cresson de musique, et dans la poitrine, le chêne vert du nom épars. un exact protocole. Mon nom de Cresson a été dispersé hier avec la musique et j'ai beaucoup pleuré. Il faut que je disperse de nouveau le nom de Cresson et qu'une aigrette ne vienne langoureusement, de façon protocolaire, le manger à l'œil. Un beau protocole sur feuillet, procès-verbal, une pellicule du Caucase où je deviens si infime. Précipité neuf et à pompique, pellicule, et je disperse de nouveau le nom de Cresson vif et je pique le chêne aux grands yeux. La serrure de Madame de Sade. Mon souci est une serrure, son monologue est une serrure. Les clés de la maison dans le buis, les clés de Madame de Sade ont trois fois la clarté d'un ciel débleui. Les clartés vertes ont pris l'allure d'une cohorte de Mazagran. La serrure de Madame de Sade, la serrure de Madame et la tendresse de Sade. Merci.
Jean-Marie Glaise.
Oui, je confirme d'abord publiquement que j'ai, cet aspect caché de ma biographie, que j'ai en effet publié quelques textes dans l'excellente revue, comme dit Jean-Jacques, Banana Split. Et notamment, je crois, un texte, mais c'est un peu lointain dans mon esprit, un texte sur le jogging, sur la course à pied. Oui, alors je n'ajoute pas une 15e thèse aux thèses de mon ami Philippe. Donc au fond, je ne réponds pas théoriquement aujourd'hui à la question posée ou à ce qui est suscité par le propos de Jude Stéphan, là, pas de rose dans la prose. Je dirais que je situe la totalité de ce que je fais, revue comprise, Gnoc, et puis les livres qui sont autour, dans une sorte de combat, si le mot n'est pas trop ridicule et pompeux, enfin contre le poème en poème, contre le poème en prose, contre la prose en poème. Il y a quelque chose que je cherche, que j'ai effectivement nommé la prose en prose. Et donc tout mon travail tend à dégager me dégager vers cette prose particulière, effectivement. Et donc voilà, c'est le sens de tout ce que je fais, et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est simplement de lire un petit pan de prose incolore en trois morceaux qui sont simplement intitulés 1, 2 et 3. Et le pan globalement pourrait s'intituler Altitude Zéro. Alors donc, Altitude Zéro, 1. Absolument moderne, de l'Antiquité à nos jours. Enregistrer, tout sélectionner, fermer, dormir, ouvrir, respirer, marcher, courir, imprimer, effacer, dormir, etc. Maintenant, Anne-Marie, le livre devient une lettre. Il fait toujours nuit. C'est comme tous ces courants d'eau noire qui vont les uns dans les autres, qui descendent, qui brillent très noirs dans le noir, qui s'en vont en courant vers, avec nous. J'ai pris froid en sortant de l'eau. Je suis maintenant entouré de laine. J'essaie de comprendre un à un tous les poèmes de la langue française. Je vais très lentement pour ne pas trop me découvrir. Cela fait des années que je n'ai pas ouvert un roman. Quand je dis comprendre, je ne veux pas dire que je m'imagine que tout ça, les poèmes, les lignes des poèmes et les mots des lignes, un à un, avec les blancs et le reste, auraient un sens. Non, ça ne signifie rien. Justement, ce que j'appelle comprendre, c'est arriver à comprendre comment ça existe, c'est-à-dire comment ça peut ne rien vouloir dire. Ce qui veut dire quelque chose ne m'intéresse pas. Ce serait plutôt retrouver la logique des choses, des gestes, le sentiment de fièvre allongé sur des lattes de bois. Il y avait des champs d'olivier, un lac putride, les avions tournaient devant le lac. Dans la rue, des allées très étroites perpendiculaires à la côte, sable et cailloux, l'humidité des murs, des plafonds, des sols. Ici, dans les draps, peut-être dans les bras, dans les draps de Flaubert, à Carthage, 4 ou 5 photographies, peut-être pas plus. J'étais incapable de récit, tournant les yeux devant les choses, ouvrant la lumière en plein jour, respirant la poussière, je crois que je sentais monter en moi la haine du récit, aussi haut que les plus hauts arbres vers le haut, la lenteur invisible de tout ça. M'approcher et te dire non, la littérature ne sert à rien, littéralement à rien. Nous sommes là entre les bordures de buis, le livre à la main, le livre entre les doigts, souriant. Ils ne peuvent rien contre nous, vraiment plus rien contre nous. Nous sommes les plus forts parce que nous ne servons à rien. Un pas entre les bordures, on danse. Debout, assis, couché, à l'altitude zéro. Avec un ciel bas, le vent entre les immeubles. Porte fermée, yeux clos, nus. Griffé par le sel, j'aime maintenant cette idée de l'altitude zéro. Des milliers de lignes de pages sur l'écran à l'altitude zéro. Enregistré, tout sélectionné, fermer, dormir, ouvrir, respirer, marcher, etc. 2. Nous serions enveloppés dans l'atmosphère terrestre. Avec une écharpe de n'importe quelle couleur, taille, longueur, de n'importe quelle largeur, comme plusieurs fois la paume des mains ou le demi-torse, avec un son de grotte vide. Je vois le son de grotte vide. Et vous qui êtes devant moi, vous dont les habits touchent la peau, je vous parle. Est-ce que je sais où je suis? Je suis au nord. Voilà ce que je viens vous dire. Je répète ce qui précède, absolument moderne, depuis de l'Antiquité à nos jours. L'arbre est un chêne, c'est ainsi. Dire à Eduardo Sanguinetti qu'il a raison de dire qu'il faut dire le nom des choses, par exemple des arbres, et de toutes les choses dont on connaît le nom, proche ou moins proche. De même, il faut dire les dates et le nom des lieux, mais ce n'est pas encore assez. J'aime cette odeur de coton. Nous sommes à des kilomètres. Je vous entends mal. Je raccroche. Rappelez-moi. J'attends. Avec un son de grotte vide. Oui, bien sûr. Absolument moderne. De l'Antiquité à nos jours. Walter Benjamin écrit que les phrases de Proust n'ont pas de bord et qu'elles sont comme le Nil. Voilà pourquoi je répète que j'aime la prose. Je possède une certaine force, mon absence de sens musical. Les lilas sont des fleurs dégoûtantes. Il n'y a aucun rapport entre la couleur du ciel et la transparence de l'eau. Sur la vidéo, on ne reconnaît pas son visage ni sa voix. Toute ma vie, j'ai refusé de boire du lait. Le segment d'Ornette Coleman s'intitule « Dedication to Poets and Writers ». Il dure 8 minutes à peu près. Je ne souhaite pas répondre aux questions suivantes. Il y a donc 2 sortes de poésie, celle qui est datée et celle qui ne l'est pas. La première, datée, est la seule vraiment possible, capable. L'autre, non datée, est comme ces surfaces polies, les choses de marbre. On ne bouge plus, attention, tout va se passer très vite. Je reste ici, les yeux immobiles. Les premiers hommes n'ont pas de maison, ils habitent des cavernes. Plus tard, ils construisent des cabanes en bois sur les lacs. Ils enfoncent dans le fond du lac plusieurs rangées de poutres. Sur ces pilotis, ils établissent la charpente. Dans les cavernes ou sur les lacs, ils peuvent se défendre contre les bêtes. Lorsqu'ils deviennent plus nombreux, ils vivent sous des tentes. Puis ils construisent des maisons en bois couvertes de chaume et des maisons en pierre couvertes de tuiles et d'ardoises. Certains quittent le bord des lacs, d'autres ne veulent pas les quitter. Un poème n'est pas un jouet. Même ceci, il ne faut pas le considérer comme un jouet. Ceci n'est pas un jouet. Ne pas porter ses lignes à sa bouche, ne pas les sucer, ne les sucer sous aucun prétexte. Je dois vous montrer encore la forme exacte des mots. Absolument moderne de l'Antiquité à nos jours. Le sexe n'est pas visible chez tous les êtres vivants. Chez certains êtres vivants, le sexe est invisible. Chez plusieurs, il est invisible, réellement invisible. Le paysage en trompe-l'œil est une photographie reprise à la main et coloriée. Maintenant, voici les livres que Lénine aimait. En Sibérie, Ilitch pose à côté de son lit les œuvres de Pouchkine et de Lermontov. Il glisse dans son album 2 photographies de Tchernychevski. Sur l'une d'entre elles, il note les dates de la naissance et de la mort de l'écrivain. On dit qu'il possède un Faust en allemand et un petit volume des poésies de Heine. Plus tard, il passe quelques nuits blanches à la lecture de Verhaeren, Émile Verhaeren. 2 jours avant sa mort, une femme lui raconte l'histoire d'un loup et d'un homme au bord d'un fleuve. Il fait très froid. 3. Un contre-champ. Ça ne s'improvise pas. La rose, j'y viens donc, est maintenant la fleur de rien. La rose est maintenant la fleur de rien. Et nous donc, qu'est-ce qui nous tourmente? Comment localiser le courant principal? Il y a de l'eau dans la prose. La rose est maintenant la fleur de rien. À partir d'ici, la rose est la fleur de rien. La parole étouffée sous les roses signifie la parole ou la prose étouffée sous les fleurs, signifie sous les figures, le style, sous les roses du style, calligraphie, eutropie, euphonie, euphorie, dans les rosiers du style, recouverte par toute l'eau des roses, toute l'eau de rose, la prose envahie par la peau de l'eau de rose, la prose écrasée sous les roses tombales, la parole tombée sous la parole florale, la prose arrangée, arrosée pour les cimetières. C'est un jeu logique pour l'étouffement des choses. Floraison, floralie, florilège, anthologie, arrosement des choses, mise en bouquet de la parole tombale, ligature et religion de la prose florale. Il y a trop de pauses dans la prose. La rose est maintenant la fleur de rien, signifie la prose est à portée de bouche et de membres. Il suffit d'aller vers un peu de prose déflorée, défaite, arrachée, vers un peu de terre froide et plate, vers un modèle de poésie tapé, aplati en prose ou prose aplatie, vers un peu de prose froide et plate, vers un peu de prose en prose, tapé, sèche, aplati, arraché, défloré, essoré, sèche, froide et plate. Et nous donc, qu'est-ce qui nous tourmente? Comment localiser le courant principal? La course devient noire de jets. J'utilise pour écrire les accidents du sol. J'utilise pour écrire les ondulations du sol, les lames du sol, les immenses vaches pleines de croûte, le fumier, les mains serrant et glissant pour du lait. Quelque chose comme la piscine de l'Évangile, la piscine des brebis appelée en hébreu Bethsaïda. Ou bien la rivière vue depuis l'autoroute comme si l'hiver pouvait être coupé, comme substance laiteuse ou laineuse, avec un froid simple, aveuglant et simple, et l'immobilité des oiseaux au milieu du lit qui ressemble à ça. Cette piscine, oui, la voir, eux, s'agitant sur les marches, parlant de leurs yeux aveugles sur les linges blancs ou gris qui entouraient leurs bras. Buanderie militaire, l'eau était toujours noire et personne n'y tombait. Un jour de février, le soleil posait une faux de lumière sur l'eau ensevelie et comme là-bas, devant ce qui s'éveillait de cristaux et de verre dans le reflet avec un ange couché, la surface. Quand il est entré, personne ne lavait ni ne descendait de bête. Il est entré, la lumière était jaune, comme les dernières feuilles des vignes, rien d'autre. Et nous donc, qu'est-ce qui nous tourmente? Comment localiser le courant principal? Le 30 mars 1996, je fais ce rêve nu. Je suis dans la salle vide, sous des tonnes de matière. Crypte murée sous la montagne, prisonnier dans la crypte, écran bleu des ordinateurs sans issue, enfermement annoncé comme irréversible, cliquer sur n'importe quel mot, stop, game over, encore, cliquer sur n'importe quel mot, enregistrer, tout sélectionner, fermer, dormir, ouvrir, respirer, marcher, courir, imprimer, effacer, dormir, etc. Un noyau ou bien le noir de jet devenu. Elle-même, la course devient noir de jet. L'immobilité des oiseaux après l'immobilité des oiseaux ressemble à ça. Si A met en musique le poème de S, alors A, c'est S qui met en musique le poème de A. A est l'auteur du poème est l'auteur des phrases du poème. Il parlait du vol des oiseaux, de l'immobilité des oiseaux dans la musique de S, de l'immobilité des oiseaux au milieu du lit entre les courants. Alors, le peintre C commence avec le mur, dans la direction du mur, vers lui, ce mouvement quotidien. C'est le noir commun de la course, ignoré du poète A, du peintre C, du musicien S. Et nous donc, qu'est-ce qui nous tourmente? Comment localiser le courant principal? La phrase exacte serait « Je connais cet endroit ». Je connais cet endroit. La course devient noire de jet. J'utilise pour écrire les accidents du sol. Je connais cet endroit équivaut à l'intensité de ce noir, un noir de source. C'est un noir de fond ou de base, minéral atlantique, le noir creux définitif du nom propre. Celui de l'eau, du lavoir, de la piscine, du lac, de l'écluse, de la rivière, de l'égout, définitivement opposé à n'importe quel bleu. Un noir de prose, le noir des chiens noirs de la prose. Et nous donc, qu'est-ce qui nous tourmente? Comment localiser le courant principal? Je recopie la vie parce que je la vois. Je recopie la vie parce que je la vois, je la recopie.
Bien, je vais vous parler de somme, mais avant je voudrais répondre à la question de la fabrication, brièvement. Moi je passe mon temps à chercher la place des choses, à déplacer les choses, avec le sentiment que là où elles sont exactement... où elles ne sont pas précisément à leur place, mais précisément. Alors pour les mots, c'est à peu près comme ça que je les utilise. Claude Royer-Journoux utilise le terme de personnage pour présenter les mots de ses textes. Moi, les personnages de mes textes sont en fait ont l'air de voisins qui parlent comme ça les uns des autres. On avait parlé un peu de polysémie en ce qui concerne les mots que j'utilise, mais je préfère penser en fait que leur principale propriété, c'est d'être... qu'ils soient entre eux, ou plutôt que chacun donne un peu le sens de l'autre. Plutôt qu'ils en aient chacun énormément. Voilà, je vous ai dit que j'allais vous parler de somme, donc je vais le faire. Ce qu'on rapporte, ce qu'on en rapporte est l'ordre des sommes. Les sommes, d'ailleurs, prennent leur disposition pour lui, pour ça, pour ce qu'on en rapporte. On ne dispose pas de l'ordre des sommes, plutôt on se dispose comme eux. On ne dispose pas de ceux qui dorment. Ils donnent leur ordre aux veilles. Nous, on donne notre ordre.
la signature des sommes à ceux qui dorment. Les sommes rapportent leur disposition. Mais elles ne rapportent pas ce qu'en rapporte elle, lui, pardon, l'ordre d'éveil. Ils répondent aux dispositions. C'est ce qu'on rapporte. C'est ce qu'on rapporte qui est la répétition, ou plutôt qui reprend les sommes. On ne possède pas les répliques de sommes. On ne voit plus, on ne voit pas se reprendre de sommes. On ne revient plus voir en sommes. On revient en somme sur ce qu'on rappelle en dormant. Nous ne semons plus de répliques. Les répliques remettent l'ordre des termes. Notre ensemble, nos sommes, rappellent l'ordre, la disposition. Notre ensemble rappelle l'ordre de ce qu'on rapporte. Nous reprenons les dispositions de sommes. Ce qu'on en rapporte à l'ensemble des sommes, l'ensemble des dispositions. On ordonne des sommes, on dispose de l'ensemble, on dispose des sommes en rapportant l'ordre. On revient sur l'ordonnance apparente. La vue reprend des répliques où elle dispose de l'ordre qui se reprend. Elle remet la signature entre les termes. On ordonne, on dispose. On ordonne en somme. On dispose. Les signatures du conte. On dispose en somme, ensemble, ce qu'on rappelle. On ne dispose pas de ce qu'on rapporte en dormant. Nous n'avançons pas d'ensemble. On en dispose plutôt pour ce qu'on voit. On ne dispose de notre ensemble que des dispenses qu'ils nous sommes. L'ordonnance, la disposition, l'ordonnance se rappelle ses termes. La disposition considère comme elle se rapporte, elle considère son ordre. La disposition se rapporte à ces termes. On rappelle les dispositions, on les rappelle sans ensemble, on rappelle les dispositions dont on dispense les sommes, nos discernements au compte des répliques. Nos répliques ordonnent des comptes sans disposition. Nous, nous rapportons l'ordre de nos sommes, de notre ensemble. On se retrouve en somme dans ce qu'on rapporte de nous. Nous dormons dans l'ordre de ce qu'on rapporte, nous dormons sur l'ordonnance des comptes. Nous dormons où nous sommes. Nous dormons disposés, sans rien entendre de ces sommes. On ordonne, on dispose. On ordonne, comptable des sommes, on dispose, comptant de leur ensemble. On se réplique, comptant de l'ordonnance. On se dispose, comptant les vues apparentes de ces sommes. On n'imagine personne dormir sans réserve. Et puis nous sommes entre dans l'ordre et sont de l'ordre des réserves. Nous réservons dans l'ensemble leur disposition. En somme, des réserves de conditions. On dispose dans l'ensemble ce qu'on ordonne en somme. On reprend l'ensemble comptant la disposition, comptant de dormir, la réserve des signatures. On ne dort qu'entrant en compte, aperçu de leurs termes. On réserve des sommes, son ensemble. On réserve des sommes à l'ordonnance, la disposition. On réserve des sommes à l'ordonnance des termes. On retient son ensemble à leur disposition. On fait des sommes en disposant de l'ensemble. On ordonne des signatures entre nos sommes qui s'ordonnent entre les signatures qui s'entendent entre les termes. Les sommes se réservent dans l'ordre. Ils se retrouvent dans l'ordre de leur disposition. Ceux qui ne dorment pas, d'ailleurs, nous rapportent de leur somme. On s'en rappelle dans sa disposition. Leur entente rappelle nos dispositions. On ordonne ensemble, on dispense en somme la signature des termes. Quant à la réserve des vues, elle s'entend dans sa mesure, dans l'ordonnance des termes. Ceux qui dorment se dispensent de somme. On se réserve aux vues de l'ordonnance des sommes. L'ensemble reprend nos dispositions. La disposition se réserve aux signatures aperçues des sommes. Ce qu'on rapporte ordonne ses réserves. Possède l'ordre des signatures, qu'on discerne de l'ordonnance des termes, qu'on remet de leur ordre. Sa mesure dispense les signatures entre eux. La disposition, l'ordonnance, la disposition sépare les termes, l'ordonnance dispense des réserves. On rapporte ce qui discerne entre les termes, des réserves de somme. Les termes retrouvent, ou plutôt reprennent, les termes reprennent la dispense des sommes. Ils se reprennent dispensés. La dispense réserve ses termes. On dispose ce qu'on rapporte des sommes. On dispense de ce qu'on rappelle. On se dispense à l'ordonnance des réserves. On se renvoie à l'ensemble de nos sommes. Nos dispenses de termes se reprennent. Nous reprenons leurs dispenses en réserve des sommes. Nos sommes ne nous rappellent rien puisque nous les reprenons. L'ensemble ne nous rappelle pas l'entente des sommes. Nous dispensons les répliques que réservent les signatures. Nous réservons des sommes au compte qui en dispense, qui les dispense de l'ensemble, à l'entente qu'il nous dispense. Et puis nous disposons, en rappelant des sommes, nos dispenses d'ensemble. La disposition rappelle qu'on dispense des termes. Elle comprend leur entente. On n'entend rien où les termes se retrouvent. On dispense des comptes où s'entendent les signatures. Nous ne reprenons qu'en dormant l'ordre de ces sommes. On reprend les dispenses en somme, on dispense d'ensemble ce que rapportent les signatures, l'entente des sommes qui revient sur l'ensemble. On se dispense ce que rappellent les signatures, on dispense des comptes, l'ensemble, les sommes. Les sommes où s'entendent leurs dispositions. On dispense des sommes apparents, ce qui revient à dormir. On ne rapporte rien qui dispose comme en somme. On dispense les termes des mesures, des dispositions. On dispense les termes des mesures sans entente, des dispositions sans entente. Les sommes, eux, se reprennent dans leur disposition. Ceux qui dorment n'occupent pas tout leur somme. La disposition s'entend aux mesures des dispenses. Les termes se mesurent à l'entente des dispositions. Ceux qui dorment n'occupent pas tout leur ensemble. Nos dispenses se comprennent sans entente. Dormir vient en somme, en dispensant de l'ensemble. Merci.
Voilà, merci d'être venu. Je trouve que ça a été une superbe soirée. La prochaine nouvelle BS aura lieu le 5 février 97 et nous aurons Christian Prigent qui lira une phrase pour ma mère. Merci d'être venu.